Les hommes aux semelles devant. Une émission d'Aude Émilie Judaïque. Aujourd'hui, les Amazones. Autour du 7e siècle avant Jésus-Christ, dans les steppes d'Eurasie, deux mondes se rencontrent. Celui des cavaliers nomades chevauchant vers l'ouest depuis les profondeurs de l'Asie et celui des Grecs, ces navigateurs aventureux colonisant tout le pourtour méditerranéen. De leur rencontre naîtra la légende des fabuleuses Amazones. C'est en ces termes que le musée Cernouchi à Paris présentait en 2001 l'exposition « L'or des Amazones ». Pour les amateurs de mythologie, ces femmes guerrières sont en effet une véritable mine d'or. Car ce peuple de femmes qui se battent comme des hommes est vite devenu le thème de prédilection des auteurs grecs anciens. Redoutées, admirées, les Amazones suscitent de nombreux fantasmes, hier comme aujourd'hui. De Lara Croft aux Fémènes, en passant par les combattantes kurdes, celles qui sortent du cadre que l'on a dessiné pour elles tombent facilement dans la caricature de la femme libérée au point de pouvoir se passer totalement des hommes. Alors, avec l'historien Yaroslav Lebedinsky, partons à la rencontre des guerrières des steppes et dénouons le vrai du faux dans le mythe toujours fécond des fabuleuses Amazones.
L'Amazone sourit au-dessus des ruines, tandis que le soleil, las de lutte, s'endort. La volupté du meurtre a gonflé ses narines. Elle exulte, amoureuse étrange de la mort. Elle aime les amants qui lui donnent l'ivresse de leur fauve agonie et de leur fier trépas, et méprisant le miel de la mièvre caresse, les coupes sans horreur ne la contentent pas. Son désir, défaillant sur quelques bouches blêmes dont il s'est arraché le baiser sans retour, se penche avec ardeur sur le spasme suprême, plus terrible et plus beau que le spasme d'amour.
Dans le mythe grec, les Amazones sont un peuple de femmes, guerrières, et qui vivent sans hommes. Et c'est bien entendu ce trait qui était particulièrement saillant dans la définition qu'en donnaient les Grecs. Les Amazones se reproduisaient à l'occasion avec les hommes des tribus voisines, mais abandonnaient systématiquement leurs enfants mâles, ne conservant que les filles, et formant ainsi une société purement féminine et autosuffisante. L'idée même de femme guerrière fascine depuis l'Antiquité, c'est d'ailleurs la racine de ce mythe des Amazones. Le mythe en lui-même a pris une force considérable, parce que probablement, pour les Grecs qui en ont été les premiers promoteurs, il représentait une espèce de monde à l'envers, une inversion totale du modèle social qui, pour eux, paraissait normal. Le modèle d'une femme au foyer, occupée exclusivement à procréer, sans activité intellectuelle, sans activité qu'on qualifierait aujourd'hui de sportive, et cela va sans dire, sans ces activités guerrières qui définissent principalement les Amazones. Et bien sûr, le modèle de l'Amazone du mythe est le portrait en creux de cette femme grecque au foyer. C'est une femme libre, c'est une femme sans mari, c'est une femme qui monte à cheval et qui combat. Alors bien entendu, nous sommes là dans le mythe, puisque l'histoire ne connaît pas de peuple de femmes et ne connaît pas, en tout cas à une certaine échelle, de société purement féminine qui se serait perpétuée de cette façon. Mais pour les Grecs, c'était, disons avec la dimension guerrière, l'un des deux éléments fondamentaux de cette description des Amazones. Amazones dont ils faisaient d'ailleurs les fils d'Arès, le dieu de la guerre, et de la nymphe Harmonie. Donc on voit bien ce va-et-vient entre l'aspect guerrier et un aspect féminin que les Grecs relevaient également chez les Amazones et que l'art grec souligne volontiers dans des représentations qui sont presque parfois des représentations érotiques. Les Amazones mythiques se battent fort bien, elles peuvent repousser les hommes, elles peuvent l'emporter un moment. À la fin, elles sont toujours vaincues. Et d'une certaine façon, c'est probablement dans le mythe l'équivalent d'un rétablissement de l'ordre normal du monde, de l'ordre des choses, qui est un ordre masculin. L'Amazone est un phénomène anormal. À titre pittoresque, il est intéressant, il permet d'enrichir le récit mythique. Mais à la fin, il convient que ce soit malgré tout le héros mâle qui l'emporte. Les Amazones interviennent dans la guerre de Troie. Alors ce n'est pas dans l'Iliade même, ce sont dans des poèmes écrits par différents continuateurs, en particulier un poème totalement oublié aujourd'hui qui s'appelle Les Éthiopiques, qui est dû à un certain Arctinos de Milet, et où l'on a cet épisode célèbre de la reine des Amazones, Penthésilée, qui affronte Achille en combat singulier et qui est tuée par Achille. Et de façon très grecque, Achille commence par déverser un tombereau d'injures sur son cadavre, faible femme, misérable, etc., avant de contempler son visage et de tomber, un peu tard, éperdument amoureux d'elle. Et c'est une scène qui a été abondamment illustrée par les artistes grecs, d'une façon très sensible. Ensuite, on peut citer d'autres exemples. Une Amazone qui s'appelle Hippolyte, Hippolyte au féminin, intervient dans le mythe d'Hercule, puisque c'est à elle qu'Hercule dérobe la fameuse ceinture. C'est l'un des 12 travaux qu'il devait accomplir. Thésée, le héros national d'Athènes, avait quant à lui enlevé l'Amazone Antiope, qui lui était ensuite restée fidèle. Et puis, pour finir, nous avons cet épisode extrêmement curieux de la rencontre qu'aurait eu Alexandre le Grand, le roi tout à fait réel de Macédoine, au cours de ses conquêtes en Perse et en Asie centrale, avec une reine des Amazones appelée Thalestris. Cette reine vient le voir et lui dit d'emblée qu'elle veut un enfant de lui. Et Alexandre, disent ses biographes, lui aurait consacré 13 jours d'amour éperdu dans l'espoir de lui faire un enfant, et il était entendu qu'elle ne conserverait qu'une fille, et que c'est Alexandre qui conserverait un garçon, mais cette histoire quelque peu romancée ne nous dit rien d'une éventuelle progéniture. Ce qui est très curieux, c'est que l'épisode se retrouve chez tous les biographes d'Alexandre et qu'il est présenté comme historique. Et là, nous sommes à la charnière, à l'une des charnières du mythe grec et de la réalité qui pouvait se cacher derrière.
Il est proche de l'Europe, une terre jouxtant la grande mer Océane qui entoure le monde. On l'appelle la City, ou terre des Scythes. Il advint un jour que les ravages de la guerre privèrent cette terre de tous les nobles hommes de la région. Les femmes du pays, voyant qu'elles avaient toutes perdu mari, frères et parents, et qu'il ne leur restait plus que les vieillards et les petits-enfants, s'assemblèrent courageusement pour délibérer. Elles décidèrent de renoncer au mariage, qui ne leur semblait plus qu'une servitude. Désormais, elles gouverneraient le royaume sans tutelle masculine. Elles promulguèrent alors une loi interdisant aux hommes l'accès du territoire.
Je pense que le mythe des Amazones a dû son succès, d'une part, à ce côté paradoxal qu'il avait, à ce côté de monde à l'envers, et d'autre part, au fait que très tôt, des informations sont parvenues aux Grecs sur l'existence de femmes guerrières réelles. Et que ces faits concrets ont été l'aliment du mythe, en particulier dans l'Antiquité tardive. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, peut-être même un peu avant, les Grecs sont entrés en contact avec les populations nomades qui occupaient les steppes au nord de la mer Noire, donc le sud de l'actuelle Ukraine et le sud de l'actuelle Russie d'Europe. Et c'est chez ces populations que des voyageurs et des personnages qu'on peut qualifier de premiers ethnographes comme Hérodote ont signalé la pratique répandue et parfois universelle de l'armement des femmes.
Pour perpétuer leur race, les Amazones invitaient les peuples voisins au partage de leur lit. Au printemps, elles se rendaient ainsi sur la montagne qui les séparait des Gargaréens et s'unissaient à eux en secret et dans l'obscurité, au hasard de la rencontre, en vue de la procréation. Si elles mettaient au monde des enfants mâles, elles les égorgeaient. Si elles mettaient au monde des filles, elles les élevaient à leur manière, non dans l'oisiveté ou dans les seuls travaux de femmes, mais dans l'exercice de l'équitation et de la chasse. Elles choisirent deux des plus nobles d'entre elles et les couronnèrent reines. L'une eut pour nom Lamphéto, l'autre Marthésie. Cela fait, elles chassèrent du pays tous les mâles qui restaient, puis elles s'armèrent, formèrent des bataillons entièrement composés de dames et de jeunes filles, et marchèrent sur leurs ennemis, dont les terres furent mises à feu et à sang. Nul ne put résister aux femmes de Scythie.
les traces des femmes guerrières de la réalité, c'est-à-dire celles de ces peuples nomades du nord de la mer Noire, sont de deux sortes. Il existe des sources littéraires, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui décrivent la pratique de l'entraînement guerrier des jeunes filles, de leur armement et éventuellement de leur participation à des combats. On trouve ces textes chez Hérodote, on les trouve aussi chez Hippocrate, qui explique notamment que chez les Sauromates, qui sont un peuple qui occupait la région située entre les cours inférieurs du Don et de la Volga, donc c'est au sud de la Russie, les jeunes filles ne pouvaient pas se marier avant d'avoir tué des ennemis au combat. Donc que leur mariage était conditionné en quelque sorte par cette activité militaire. Et puis, nous disposons, et c'est important pour vérifier ces textes qui auraient pu être considérés eux aussi comme légendaires, nous disposons maintenant de tout un matériel archéologique qui est venu corroborer de façon très abondante ces histoires de femmes guerrières. Et cela depuis la fin du XIXe siècle, puisque les premières trouvailles de tombes féminines à armes, en Ukraine notamment, ont été faites à la fin du XIXe siècle. Les tombes féminines, extérieurement, ne se différencient pas des tombes masculines. Elles se distinguent principalement par leur mobilier. Et c'est là que nous butons sur un problème qui a été celui des archéologues jusqu'à une période toute récente, c'est l'identification du sexe du défunt ou de la défunte. Et pendant très longtemps, on a eu tendance, sur la foi d'un mobilier qui était de type masculin, à considérer que les défunts munis d'armes, d'éléments, de harnachement de cheval, etc., étaient des hommes. Et c'est progressivement que l'on s'est aperçu, quand on y a regardé de plus près, que toute une partie de ces corps étaient en fait ceux de femmes, enterrées avec des mobiliers souvent mixtes, comprenant des objets féminins, comme par exemple des miroirs métalliques, plus tard des fibules, etc., mais comprenant également ces armes qui étaient considérées précédemment comme un matériel essentiellement masculin. Il faut ajouter que quand on parle d'armes, on pense bien sûr à la guerre, il peut s'agir aussi d'armes de chasse et d'armes de défense, des troupeaux, puisque les femmes devaient jouer, comme c'est encore le cas dans certaines sociétés nomades aujourd'hui, un rôle important dans le gardiennage et la protection des troupeaux contre les prédateurs, que ce soit des prédateurs à quatre pattes ou des prédateurs à deux pattes.
On les appelait Amazones, ce qui signifie qui a subi l'ablation d'un sein. Car selon une technique bien à elles, elles avaient l'habitude de brûler le sein gauche des petites filles de haute noblesse, afin que celles-ci ne soient pas gênées en portant le bouclier. Au moins nobles, qui devaient tirer à l'arc, elles enlevaient le sein droit. Elles prirent un vil plaisir au métier des armes, agrandissant par la force leur pays et leur domaine. Leur renommée fit le tour de la terre.
Alors le problème est en effet de savoir ce qui a provoqué le développement de cette pratique d'armement ou de militarisation des femmes et si c'est un phénomène lié au nomadisme. Fondamentalement, je pense que oui. Alors la corrélation n'est pas totale puisqu'il existe des sociétés sédentaires où les femmes ont été armées dans des proportions importantes, mais c'est souvent à la périphérie des steppes ou chez des populations qui avaient une tradition nomade ancienne. Par exemple, chez les Alains qui s'étaient sédentarisés sur le Don au 8e, 9e siècle, on trouve une grande proportion de tombes féminines munies d'armes. Ces Alains avaient un très long passé nomade et vivaient à la limite de ce qui était encore le monde nomade. Il y a également, bien sûr, des peuples nomades chez lesquels on ne rencontre pas de femmes guerrières. Mais peut-être que les témoignages archéologiques sont sur ce point trompeurs, puisqu'il suffit que le rite funéraire ne prescrive pas le dépôt d'armes dans les tombes féminines, même si ces femmes, à une époque de leur vie, ont pu porter les armes. C'est le cas chez un certain nombre de populations turcophones médiévales. Chez les Turkmènes, par exemple, on a des témoignages très précis d'armement des femmes, on n'en a aucun témoignage archéologique. Mais je pense que, dans l'ensemble, le mode de vie nomade, en tout cas ce nomadisme particulier des steppes eurasiennes, je ne me prononce pas sur les autres types de nomadisme, a favorisé non seulement l'armement des femmes, mais aussi dans l'ensemble l'avènement d'un statut des femmes beaucoup plus élevé que dans les sociétés sédentaires. Parce que le nomade ne bénéficie pas de la protection de murailles, de cités, il vit dans un cadre qui est complètement ouvert, où il est souvent perpétuellement menacé par ses voisins, et le renfort, non seulement moral, mais aussi physique, que pouvaient apporter les femmes à ce mode de vie était considérable. En tout cas, que ce soit dans l'Antiquité chez les Sarmates, que ce soit plus tard chez des populations de langue turque, que ce soit chez les Mongols de la période impériale, les auteurs s'accordent à souligner la place éminente de la femme. Et généralement, d'ailleurs, c'est assez amusant puisqu'il le souligne sur un ton indigné. Les Grecs de l'Antiquité, les Arabes du Moyen-Âge s'indignent de voir la femme nomade avoir parfois la préséance sur l'homme. Je pense que quand les Grecs ont découvert l'existence de femmes guerrières, alors d'abord chez les Scythes et ensuite chez les Sauromates et les Sarmates, ils n'ont pas été si surpris que cela, parce que c'était une preuve de barbarie supplémentaire. Les Amazones du mythe étaient une création imaginaire anormale, et là, on avait finalement un mode de vie tout aussi anormal, qui était celui du barbare. Le barbare n'avait pas de maison, le barbare était un sauvage, le barbare avait des femmes guerrières, tout cela finalement avait une certaine logique.
Les nombreux faits d'armes des Amazones les firent craindre et redouter par le monde entier. Leur renommée parvint jusqu'en Grèce où vivait alors Hercule, dans la fleur de l'âge. Il accomplit en son temps plus d'exploits physiques qu'aucun héros dont l'histoire ait gardé la mémoire. Il s'affronta aux géants, aux hydres et à d'autres monstres fabuleux et il les vainquit tous. Hercule pensait qu'il ne fallait pas attendre que les Amazones envahissent la Grèce, mais qu'il valait mieux les attaquer les premiers. C'est ainsi qu'il fit armer 9 navires et avec l'aide de Thésée, il leva une grande armée constituée de l'élite des guerriers de la Grèce pour se rendre en force en Scythie. Ils prirent la mer, mettant le cap sur le royaume des Amazones. Quand ils approchèrent des côtes, ils décidèrent d'attendre la nuit noire pour débarquer, à l'heure où toute créature mortelle doit se reposer et dormir. Ils quittèrent leur vaisseau en force, incendiant les villes et massacrant les Amazones, qui ne s'étant point méfiés, furent pris au dépourvu. Mais l'alarme fut rapidement donnée, et toutes, rivalisant de rapidité, se précipitèrent aux armes et se rendirent en masse, intrépides, vers le rivage d'où venait l'attaque. C'était merveille de voir ces femmes courir aux armes et se rassembler autour de leur reine. À l'aurore, toutes les colonnes étaient prêtes.
On constate au cours de l'histoire, une certaine raréfaction de ce phénomène de femmes guerrières. Statistiquement, il semble atteindre un pic chez les Sauromates et leurs successeurs, les plus anciens Sarmates, donc les nomades de langue iranienne qui occupaient le sud de la Russie et ensuite l'Ukraine, à peu près du 6e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle. Chez les premiers Sarmates, on a encore une proportion importante de l'ordre de 15% de tombes féminines contenant des armes. Autour de notre ère, cette proportion tombe à presque rien. Elle est au niveau de l'erreur statistique. Est-ce lié à la sédentarisation? Pas encore, puisque ces Sarmates sont toujours sédentaires. Est-ce lié à une meilleure maîtrise du territoire qui ferait que le renfort de la femme n'aurait plus été nécessaire? Est-ce lié simplement à un changement de rite funéraire qui ne prévoyait plus le dépôt d'armes? En fait, nous n'en savons rien. Ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, à des périodes beaucoup plus tardives, on voit ressurgir le phénomène, notamment chez les populations comme les Turkmènes, tout un ensemble de populations de langue turque en Asie centrale et ensuite chez les Mongols. On peut penser que de façon assez systématique, les jeunes filles étaient formées à l'usage des armes et qu'ensuite l'usage réel qu'elles en faisaient était fonction du contexte, c'est-à-dire des guerres qui pouvaient se livrer, de la situation militaire plus ou moins favorable d'une population, de l'existence de voisins dangereux, etc. Certains épisodes montrent qu'elles étaient parfaitement capables de se battre. Ça a été le cas à l'époque de Tamerlan, encore au XIVe et au début du XVe siècle. Mais probablement, ce n'était pas quelque chose de général et de permanent.
Sur leur fougueux destrier, les Amazones s'élancèrent vers le port, lance au poing, leurs solides boucliers en cuir d'éléphant accrochés au cou. Là, ivres de colère et de rage, elles se jetèrent de toutes leurs forces, lance baissée contre les plus acharnés des Grecs, Ménalipé contre Hercule, Hippolyté contre Thésée. On vit bien alors quelle était leur colère, car malgré la force colossale, la témérité et l'immense courage de ces hommes, les deux femmes leur portèrent de tels coups que l'on vit s'écrouler pêle-mêle sous la force du choc, cavaliers et montures. Les deux cavaliers rougissaient d'avoir été désarçonnés par deux jeunes filles. Mais à la fin, les deux femmes furent faites prisonnières. Hercule et Thésée étaient si fiers d'une pareille capture qu'ils ne l'auraient pas échangée contre les richesses d'une ville entière. Ils regagnèrent donc leur navire, estimant avoir accompli un assez grand exploit. Ils firent grand honneur aux deux femmes, et leur joie redoubla en les voyant si belles et si gracieuses lorsqu'elles eurent retiré leurs armures. Jamais butin ne leur avait paru si agréable. Hercule pria et supplia tant la reine qu'elle permit à Thésée de prendre Hippolytée pour femme et de l'emmener dans son pays. On célébra des noces fastueuses et les Grecs repartirent. Leur joie ne connut plus de bornes, car en vérité, ils ne redoutaient rien tant qu'une attaque des fabuleuses Amazones.
Le mythe des Amazones n'a jamais péri, même aux époques où il était moins soutenu par des réalités. Mais en fait, il y avait toujours des épisodes, même anecdotiques, qui permettaient de reparler de femmes guerrières. Après tout, si le fleuve Amazone s'appelle Amazone, c'est parce que les conquistadors avaient été attaqués, paraît-il, par des femmes indiennes qui maniaient fort bien l'arc et le javelot. Je pense que le mythe, comme tout grand mythe, répond à un besoin, à cause justement de son côté paradoxal, à cause aussi peut-être de son côté para-érotique, cette association d'Eros et de Thanatos. Enfin, je laisse ça aux psychologues, mais à mon avis, il y a là une espèce de vérité profonde qui fait que la femme en armes éveille chez l'homme quelque chose. Il suffit de voir les couvertures de romans populaires ou les publicités actuelles pour s'en convaincre. Alors à l'époque actuelle, c'est un peu différent parce que c'est la redécouverte archéologique des vraies Amazones, donc de ces femmes guerrières nomades, qui a provoqué une vague d'intérêt, alors chez les historiens, les anthropologues, etc., et, je dirais, une vague quelque peu délirante chez des franges militantes qui ont saisi cette réalité historique pour en faire un modèle à nouveau mythifié d'une société de femmes. En réalité, il n'y a jamais eu dans les steppes, pour ce que l'on en sait, de société matriarcale, et on n'a pas non plus de raison de penser que c'était des sociétés matrilinéaires, ni même matrilocales, tout ça correspondant à des définitions strictes et différentes. Ce qui est certain, c'est que les femmes jouaient un rôle important, et ça, on peut tout à fait défendre cette idée, bien qu'on ne connaisse pas, par exemple, de reines sarmates historiques. Nous en connaissons qui sont légendaires, nous ne connaissons que des rois sarmates. Et même ces reines sarmates légendaires sont des personnages que les récits décrivent comme remplaçant leur mari mort ou défaillant. Donc on a bien un système de patriarcat naturel. Ce qui n'empêche pas la femme d'avoir joui d'un très haut statut, non seulement en matière militaire, mais aussi par exemple en matière religieuse, puisqu'elles étaient apparemment les prêtresses de l'un des cultes majeurs qui était celui du feu et du soleil. Mais chez certaines militantes féministes, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, les découvertes archéologiques ont été quelque peu manipulées pour relancer l'ancien mythe grec, c'est-à-dire celui d'une société de femmes excluant les hommes, et qui, au surplus, bien entendu, aurait pratiqué une sexualité alternative, aurait été homosexuelle, etc., ce qui n'apparaît jamais dans le mythe grec. Les Amazones du mythe grec vivent sans hommes, elles ne sont pas pour autant homosexuelles, et lorsqu'elles souhaitent perpétuer leur espèce, elles s'accouplent, bien entendu, à des hommes, apparemment sans déplaisir. Alors, ce mythe des Amazones, qui clairement avait été développé par des hommes, et des hommes qu'on qualifierait aujourd'hui de particulièrement machistes, les Grecs anciens, pour représenter un univers anormal, un univers complètement renversé, devient aujourd'hui un mythe féminin manipulé, en effet, par des auteurs féminins pour illustrer des théories sociologiques ou politiques. C'est une évolution intéressante, mais c'est le propre du mythe que d'être récupéré, réécrit et de connaître des incarnations successives.
Stop.
Alors les femmes guerrières sont un phénomène complexe et aux multiples visages, puisqu'il y a des cas individuels qui existent dans toutes les cultures et à toutes les époques. On connaît bien sûr Jeanne d'Arc. Il y a des femmes qui, à un certain moment, aident ou remplacent les hommes dans les activités guerrières pour des raisons de nécessité. Il y a des troupes de femmes particulières créées dans des sociétés par ailleurs patriarcales. On se souvient des fameuses Amazones du Dahomey à l'époque de la colonisation. Et puis, il y a cette situation qu'on connaissait chez les nomades de l'Antiquité, qui est donc l'entraînement guerrier généralisé de la population féminine, en tout cas des jeunes filles. L'une des dernières versions de la figure guerrière de la femme, c'est ce groupe des femmes. L'idée même des seins nus, d'ailleurs, renvoie quelque peu aux Amazones, auxquelles les Grecs prêtaient l'ablation d'un sein, mais l'exhibition de l'autre. Et la question, particulièrement intéressante pour moi en tant qu'historien de l'Ukraine, est de savoir si c'est un hasard que ce groupe soit apparu et se soit développé précisément en Ukraine. Je pense qu'il y a en tout cas en Ukraine une vieille tradition, alors qu'on pourrait qualifier de façon anachronique de féministe, mais une vieille tradition en tout cas de valorisation de la femme, dont on a bien d'autres exemples que les femmes. Je rappelle que l'Ukraine a connu un premier ministre à poigne, Yulia Tymoshenko, qui avait été la véritable héroïne de la Révolution Orange, et qui est encore en Ukraine un personnage politique de premier plan, ce qui est plus difficilement concevable, par exemple, dans la Russie voisine, et que l'héroïne nationale actuelle de l'Ukraine en guerre est cette femme pilote, Nadia Savchenko, kidnappée, jugée et condamnée par la justice russe, est présentée un peu, elle aussi, comme un modèle de femme guerrière. Certains phénomènes sont parfois difficiles à classer, comme par exemple l'apparition de combattantes chez les Kurdes à l'époque actuelle, dans les troupes de ces combattants kurdes qu'on appelle les Peshmerga, que ce soit en Irak ou en Syrie, il y a des femmes, il y a même des unités de femmes, il y a des femmes qui commandent des unités militaires masculines. Et donc on peut se poser la question de savoir si, d'abord, si c'est un phénomène qui a des racines locales anciennes, et là il semble que non, ou alors il faut remonter à des époques vraiment reculées. Et ensuite, si c'est un phénomène qui va être durable, c'est-à-dire qui va dépasser le conflit actuel et qui aura une influence sur le statut général de la femme au Kurdistan. Ce que disent la plupart des observateurs à l'heure actuelle, c'est que le rôle et la liberté et l'extrême détermination de ces femmes guerrières contrastent avec une situation générale qui est beaucoup moins reluisante, qui est celle d'une domination masculine à peu près absolue, ponctuée de crimes d'honneur et d'autres phénomènes que l'on connaît bien. Donc on peut se demander ce qui arrivera une fois le conflit terminé, une fois la situation rentrée dans l'ordre, si toutefois un conflit endémique ne se prolonge pas pendant des décennies. Il est fort possible que ces femmes que l'on a armées pour sauver la situation se révèlent difficiles à désarmer et qu'elles ne veuillent pas rentrer dans le rang. C'est d'ailleurs ce qu'elles disent quand on leur pose la question, et c'est finalement ce qu'on peut leur souhaiter.
Merci à Yaroslav Lebedinsky, historien, éminent spécialiste des cultures des steppes et enseignant à l'INALCO. On lui doit notamment « Les Amazones, mythes et réalités des femmes guerrières chez les anciens nomades de la steppe », ouvrage publié aux éditions Errance en 2009. Merci également à notre belle Amazone, Florence Lecor, dont les lectures étaient librement adaptées de « La Cité des Dames » de Christine de Pizan et du poème de René Vivien intitulé « L'Amazone ». Les Hommes aux Semelles de Vent est une émission d'Aude Émilie Judaïque, aujourd'hui préparée par Julie Briand, enregistrée par Pascal Bénard et mixée par Pierre Mine. Demain, nous repartons pour une chevauchée infernale dans les steppes du Caucase, du temps où elles étaient soumises aux invasions russes et tatares. Mais d'ici là, je vous laisse avec l'hymne des Femen, Bare Breast, interprété par Western Fiasco.